êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Nous sommes le jeudi 25 avril 2024 sur SBS Audio. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Marianne Murat à vos côtés pendant une heure. Aujourd'hui, c'est bien sûr Anzac Day, journée de commémoration. On va largement en parler et ça commence maintenant avec le journal. À la une de ce journal, les célébrations et commémorations donc de l'Anzac Day à travers l'Australie et à l'étranger, notamment en France. Nouvelles arrestations dans une grande opération de police antiterroriste après l'attaque au couteau dans une église de Sydney. L'Ukraine qui s'apprête à recevoir de nouvelles aides américaines après le feu vert du Congrès et la loi promulguée par Joe Biden. Et enfin, le Hamas qui diffuse une vidéo d'un otage israélo-américain de 24 ans kidnappé le 7 octobre dernier. On l'a dit en sommaire, puis en titre, on débute ce journal par les célébrations de l'Anzac Day en ce 25 avril. Anzac Day, ce sont notamment les commémorations de la sanglante bataille de Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale, où des Australiens et des Néo-Zélandais ont affronté l'armée ottomane en 1915. C'était donc il y a 109 ans et cette journée est marquée en Australie et en Nouvelle-Zélande bien sûr, mais aussi aux Samoa, aux îles Tonga, Cook et à Niue. Le Premier ministre Anthony Albanese est d'ailleurs aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le ministre des vétérans australien, Matt Keogh, et lui en France, on l'écoute chez nos confrères de Sky News.
Gallipoli this year will have about 1,800 people, and here in Villers Bretonneux we'll have over 2,200, which is the most that we've seen since 2018, which was the centenary of the battle here. So great to see Australians still turning out in droves, showing their commitment to honouring their family members that fought here and all Australians that fought here. And not just here, but around the globe.
Les célébrations, c'est aussi en Australie. Depuis ce matin, bien sûr, le chef de l'opposition Peter Dutton était à Brisbane. Il y a prononcé un discours sur la fraternité entre les soldats australiens et néo-zélandais et sur la façon dont la Première Guerre mondiale a façonné la conscience de l'Australie. On l'écoute.
It was noted that Australians came from every social strata. During the next four catastrophic years of the First World War, Australians and New Zealanders exemplified bravery in battle. Mateship in mayhem and endurance in extremis. This spirit, the Anzac spirit, emerged in the tragedy of Gallipoli. In the fires of war, Australians carried out incredible work and they carved out a national character.
Peter Dutton, leader de l'opposition. À Brisbane, toujours les commémorations se sont poursuivies après le discours de l'aube dont on vient d'entendre un extrait. Parmi les présents, Yann et Dean, ils ont combattu ensemble il y a 30 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée et se sont retrouvés récemment grâce aux réseaux sociaux Facebook. On écoute leur témoignage au micro de Channel 9.
We served on Operation Lagoon back in 1994 and we finally met up in 2000 at COVID on Facebook. We searched each other out and found each other. And today's the first day we've met in flesh.
Et plus au centre du pays, des Australiens de tout horizon se sont rassemblés dans la banlieue d'Alice Springs. La cérémonie a débuté par un petit déjeuner traditionnel suivi d'un service de l'aube au monument aux morts. Pat Ansel Dodds était là pour rendre hommage à son père qui a servi dans les forces de défense australiennes dans les années 40. Elle a déclaré à ABC, à cette époque, son papa n'était pas reconnu comme citoyen australien, comme beaucoup de personnes de la communauté aborigène qui ont servi. Elle venait chaque année avec son père pour commémorer l'Anzac Day.
He used to take me and he used to march in the street and go up Anzac Hill. A lot of the fellas were from Alice Springs, and Northern Territory, and they didn't have any rights, but they went and did it.
Voilà, messieurs, dames, un court aperçu de ce que l'on pouvait dire aujourd'hui des commémorations de l'Anzac Day à travers l'Australie. Bien sûr, on en parle encore dans la suite de l'émission, mais d'abord, dans le reste de l'actualité, 5 jeunes personnes supplémentaires ont été inculpées dans l'enquête concernant l'attaque terroriste dans une église à Sydney la semaine dernière. Hier, 7 autres enfants avaient déjà été arrêtés. Au total, ce sont 13 mandats de perquisition qui ont été délivrés, impliquant plus de 400 policiers dans cette grande enquête de contre-terrorisme. Les explications du premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Mintz.
Terrorism operations are complex. They involve a high level of professionalism and dedication from New South Wales Police and the Australian Federal Police. I'm deeply grateful that they're out there doing this difficult work, but it is necessary to keep the public safe. That this task force is large and important and obviously been deployed as a joint operation between the Commonwealth Government and New South Wales, but I'll obviously leave operational details up to the New South Wales Police Commissioner.
Sur la scène internationale, Volodymyr Zelensky salue l'arrivée de l'aide américaine après le feu vert du Congrès. Joe Biden a promulgué la loi qui prévoit une enveloppe de près de 61 milliards de dollars pour soutenir Kiev dans sa guerre contre la Russie. En Europe, Rishi Sunak, Premier ministre britannique, et Olaf Scholz, le chancelier allemand, ont également promis un soutien inébranlable, je cite, à l'Ukraine. Le premier étant en visite officielle à Berlin aux côtés du second. La correspondance de Pascal Thibault pour Radio France Internationale.
Et les deux chefs de gouvernement ont mis en avant leur engagement en faveur de l'Ukraine qu'ils veulent poursuivre tant que cela sera nécessaire. Rishi Sunak a, comme son homologue Olaf Scholz, souligné le rôle de premier de la classe européenne des deux pays.
Vous ne pouvez pas nier le fait que l'Allemagne et le Royaume-Uni sont actuellement les soutiens les plus importants de l'Ukraine, et ce aussi longtemps qu'il le faudra.
Olaf Scholz a salué le déblocage par le Congrès américain de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, mais insisté sur la nécessité pour les Européens de faire plus.
La décision des États-Unis ne réduit pas notre obligation en Europe de renforcer notre soutien à l'Ukraine. Tous les Européens devraient, en fonction de leur poids économique, prendre les décisions qui s'imposent.
L'Allemagne et le Royaume-Uni, piliers historiques de l'OTAN, veulent développer leur coopération militaire et le pilier européen de l'organisation transatlantique, des obusiers, des chars Boxer, l'avion de combat Eurofighter, figure au cœur de cette coopération, ainsi que le projet de bouclier antimissile Euro Sky Shield, lancé par l'Allemagne avec une vingtaine de pays participants et auquel la France s'oppose.
Et enfin, on termine avec cette actualité concernant le Proche-Orient. Le Hamas a publié une vidéo d'otage. Il s'agit d'un jeune homme israélo-américain de 24 ans enlevé le 7 octobre dernier. Le récit d'envoyés spéciaux à Jérusalem pour RFI, Nicolas Benita et Nicolas Falaise.
C'est une preuve de vie tournée et diffusée par les ravisseurs du jeune homme. Il a le cheveu ras et la barbe courte, mais ce qui frappe, c'est qu'il apparaît amputé de la main et d'une partie du bras gauche. Il s'exprime en hébreu, donne son nom, Hersch Goldberg Polin. Il donne des éléments d'identification, date et lieu de naissance et prénom de ses parents. Il mentionne également ses 200 jours de détention et la fête juive de Pessah qui a lieu cette semaine, ce qui semble indiquer une vidéo récente. L'otage raconte avoir été capturé et grièvement blessé le 7 octobre. Il participait au festival musical durant lequel des centaines de personnes ont été assassinées. Il n'y avait personne pour nous protéger, dit-il. Dans cette vidéo diffusée par le Hamas, le jeune homme s'en prend à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement, affirmant que ces derniers devraient avoir honte de négliger le sort des otages. Honte d'avoir rejeté les offres d'échange, dit-il. Honte des conditions de captivité extrêmement dures des personnes prisonnières dans la bande de Gaza. Toujours selon le jeune israélo-américain, 70 otages auraient été tués par des bombardements israéliens dans la bande de Gaza.
Israël qui affirme par ailleurs avoir lancé une action offensive sur le sud du Liban, des dizaines de cibles auraient été frappées et la moitié des commandos du Hezbollah auraient été tués depuis le début de ce conflit. L'État hébreu qui dit enfin avancer à Gaza dans ses préparatifs pour une opération terrestre sur Rafah, et ce malgré la mise en garde de la communauté internationale. Sans transition, un point sur la météo australienne de ce jeudi 25 avril. Des nuages à Perth, il fait 24 degrés, 19 à Adelaide et Canberra. Des averses à Melbourne, comptaient 16 degrés. Il fait 23 degrés à Sydney, 27 à Brisbane. Du soleil à Cairns, 30 degrés. Des averses à Darwin, mais il fait 34 degrés. Le rappel des titres, les célébrations et commémorations de l'Anzac Day à travers l'Australie, nouvelles arrestations dans une grande opération de police antiterroriste après l'attaque au couteau dans une église de Sydney, l'Ukraine qui s'apprête à recevoir des aides américaines après le feu vert du Congrès et enfin le Hamas qui diffuse une vidéo d'un otage israélo-américain kidnappé le 7 octobre.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur SBS French. Tout de suite, un épisode spécial de notre podcast L'Histoire cachée de l'Australie, consacré à l'Anzac Day. Qu'est-ce que c'est? Qui sont ces hommes? Grégory Place et Romain Fati reviennent sur ce corps expéditionnaire déployé lors de la Première Guerre mondiale et qui, malgré une défaite cuisante à Gallipoli, a contribué à faire émerger une identité nationale australienne distincte de l'identité britannique.
Bonjour à toutes et à tous, on est d'un jour férié australien, Anzac Day, qui est un peu l'équivalent local de notre 11 novembre ou de notre 8 mai, sauf qu'en Australie, eh bien, on rassemble une journée de commémoration des anciens combattants de toutes les guerres sur un seul jour, qui est donc ce jour Anzac Day. Et on a décidé à cette occasion de revenir sur cette journée, sur ce qu'il y a derrière, avec le spécialiste de la question, Romain Fati. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir, Grégory.
Alors, je dis que vous êtes un spécialiste, hein, de toute façon, vous êtes notre spécialiste histoire de manière générale, mais il se trouve que vous avez écrit un ouvrage sur précisément les Anzac. Alors, je le précise d'ailleurs, c'est un acronyme pour Australia and New Zealand Army Corps. C'était donc un contingent qui rassemblait à la fois des soldats australiens et néo-zélandais et qui ont été déployés pour la première fois au début de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment précis, donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont déjà indépendantes de la couronne britannique, mais pas sur le plan militaire. À ce niveau-là, ils dépendent toujours justement de l'Angleterre. Est-ce que c'est exagéré de dire que les Anzac, c'est un petit peu les tirailleurs sénégalais de l'Angleterre?
Voilà, alors on va essayer de remettre les choses à plat. Oui, c'est un peu exagéré, mais c'est pas non plus tout à fait absurde ce que vous dites. Quand le roi déclare la guerre, il déclare la guerre pour l'Empire. Effectivement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des dominions qui se sont fédérés, ils ont tous les deux leur propre parlement, et donc ce sont des peuples qui ont une certaine indépendance vis-à-vis de la couronne, puisqu'ils peuvent proposer leurs lois pour eux-mêmes. Simplement, au niveau de la politique étrangère, les décisions qui sont prises à Londres sont souvent prises pour l'Empire, ou au moins en consultation avec ce dernier, et de toute façon, ce qui compte, c'est pas tellement le caractère légal de qui prend la décision d'aller en guerre. Ce qui compte, c'est la réaction des Australiens. Et le Premier ministre de l'époque, M. Fisher, dit en août 14, nous nous battrons jusqu'au dernier homme et jusqu'au dernier shilling. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on utilise le mot australien à l'époque, il n'a qu'une valeur géographique. Par cela, je veux dire que les Australiens de 14 se conçoivent essentiellement comme des Britanniques. Et dans leur représentation mentale, ils sont même, entre guillemets, termes de l'époque, plus purs que les Britanniques, puisqu'ils ne tolèrent aucune autre forme d'immigration qu'une immigration blanche et d'abord du Royaume-Uni. Donc pour les Australiens, quand la guerre est déclarée et quand la Grande-Bretagne dit « nous allons rejoindre la guerre pour les Alliés », il ne fait absolument aucun doute que les Australiens et les Néo-Zélandais vont se battre aux côtés de l'Empire, parce que les intérêts de la Grande-Bretagne sont les intérêts de l'Australie. Aujourd'hui, on vous explique, ah, les Australiens sont battus pour la liberté. Non, tout ça, c'est des grandes foutaises. Hein. Ils se battent pour l'Empire britannique, ils se battent pour le roi, et ils se battent pour les intérêts économiques de leur île. Si le commerce est coupé avec la Grande-Bretagne, l'Australie meurt, elle s'assèche. Donc, les Australiens se sont battus pour l'Empire, mais ils se sont d'abord et avant tout battus pour eux-mêmes. Et la différence vraiment avec les tirailleurs sénégalais et autres troupes coloniales françaises, c'est que les troupes coloniales françaises n'avaient pas nécessairement beaucoup de choix et on leur a souvent fait miroiter des droits qui, tristement, ne leur ont pas toujours été accordés. Alors que les Australiens se portent volontaires, ne sont pas obligés à aller se battre et le font donc pour eux-mêmes et pour l'Empire.
Alors, vous le dites, les Australiens, alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, se sentent autant concernés par cette guerre que les Anglais, qui, pour le coup, le conflit est à leur porte. Et la Première Guerre mondiale, évidemment, on le sait, ça se passe surtout en France, en Picardie, dans le Nord, les tranchées, etc. Mais ces troupes de l'Anzac, elles se battent à l'autre bout de l'Europe, en Turquie et plus précisément à Gallipoli contre donc ce qu'on appelait alors les Ottomans qui, eux, étaient dans le camp de l'Allemagne.
Oui, alors pour un petit rappel de contexte rapide, la Première Guerre mondiale est essentiellement une guerre d'empire. L'empire allemand, austro-hongrois, ottoman, russe, empire français, empire britannique, etc. Et ces empires ont des colonies ou des dominions. Et quand ces empires sont en guerre les uns contre les autres, eh bien, mécaniquement, leurs colonies et leurs dominions se retrouvent en guerre. Si bien que deux pays en Afrique qui ont une frontière commune, mais qui font partie d'un empire différent, se retrouvent en guerre. Et la guerre mondiale est réellement une guerre mondiale dans le sens où vous avez des fronts qui s'ouvrent un peu partout. On pense au front ouest, mais il y a aussi le front est. Il y a la guerre dans le Pacifique, il y a la guerre dans l'Empire ottoman, il y a la guerre partout, grosso modo. Et donc, effectivement, quand la guerre est déclarée, ce qui se passe, c'est que les empires mobilisent leurs troupes et les envoient là où il y a des besoins. Donc, la guerre commence sur le front ouest, août 14, on voit ce qui se passe entre l'Allemagne, la France, enfin l'Allemagne qui traverse, qui viole la neutralité de la Belgique. Et à partir de ce moment-là, les empires apportent leurs troupes là où il y a des zones de combat. Et en 1915, se pose la question d'ouvrir un autre front, parce que à partir de, bon, au début 14, vous avez une guerre de mouvement, donc on pense encore qu'une victoire rapide peut être assurée, mais tout le monde déchante. Les Allemands pensaient être à Paris en 40 jours, les Français à peu près pareil pour Berlin, et ça ne marche pas. Donc, on arrive à une situation de tranchée, le front est bloqué, et pour débloquer ce front, l'armée britannique propose à l'armée française d'ouvrir un autre front dans les Dardanelles, ce que les Australiens appellent Gallipoli, de sorte à prendre les Ottomans de revers et de les désolidariser de l'Empire austro-hongrois et allemand, et il était pensé de gagner la guerre. Le souci, c'est que les amirautés britanniques et françaises se disent « Oh là là, les Ottomans, de toute façon, c'est le dying man of Europe. Cet empire était pensé comme un empire moribond. On ne va pas nécessairement envoyer nos meilleurs navires, nos meilleurs canons, etc. Et puis ça devrait passer. » Or, erreur monumentale, les Ottomans se battent et le font très bien et repoussent l'attaque britanno-française. Et dans ces troupes de l'Anzac, bon, il ne faut pas oublier que souvent les Français l'oublient, il y a plus de Français qui sont morts à Gallipoli, plus de 12 000, que d'Australiens. Pourtant, qui se souvient de Gallipoli et de la bataille des Dardanelles en France ? Quasiment personne.
Ouais, c'est vrai Australiens... que par rapport aux chiffres de Verdun, par exemple, ça paraît dérisoire,
oui.
Malheureusement.
Oui, oui. Ouais. Malheureusement, complètement. D'ailleurs, il y a un très beau cimetière militaire là-bas, un cimetière militaire français qui est désolant parce que quasiment personne ne va le voir, en fait, ce cimetière. Mais pour revenir aux Australiens, ils s'embarquent pour la guerre, ils pensent qu'ils vont aller se battre sur le front ouest. Et en fait, on les débarque en Égypte où ils sont entraînés avant d'être emmenés sur le front de Gallipoli. C'est une défaite pour eux comme pour les autres. À Gallipoli, vous trouvez des troupes indiennes, vous trouvez des troupes coloniales françaises également. Vous trouvez tout un tas de troupes coloniales qui se battent pour ces deux empires, britanniques et français, contre les Ottomans. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des Australiens qui viennent du bout du monde, qui se retrouvent à se battre contre des Ottomans, des Turcs, alors que ces pays n'avaient quasiment aucune relation avant la guerre. Mais c'est ça le jeu de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que vous déployez des troupes là où vous en avez besoin, il n'y a pas de déterminisme national, si vous voulez.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Sous la peau comme une enclume. parfois. On me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume comme toi. Je peux être rage, libre d'être l'une comme l'autre, car je suis lune et soleil.
C'était Zaz sur les ondes de SBS Audio avec son titre Lune ou l'autre. Allez, tout de suite, c'est la suite de notre histoire cachée sur l'Anzac Day.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Vous l'avez dit, les forces de, j'allais dire les alliés, mais en fait la Première Guerre mondiale, c'est l'entente. Les Anglais, les Français pensent que ça va être facile. Du coup, ils n'envoient pas leurs meilleures armes, leurs meilleurs navires. Et au final, cette bataille, c'est un peu une catastrophe. Il y a beaucoup de morts et on finit par se retirer. Et pourtant, en Australie, cette bataille, elle est un petit peu mythifiée parce que au-delà de cette bataille et de son résultat, en fait. On le sait, donc la Fédération australienne a à peine 15 ans à ce moment-là. Et c'est le premier moment où vraiment il y a le sentiment d'appartenir à une même nation, de ne pas juste être des sujets britanniques, mais d'être des Australiens.
Alors voilà, ce que vous rappelez est essentiel pour comprendre la formation de l'identité nationale australienne. C'est-à-dire que Gallipoli, que ce soit une défaite ou une victoire militaire, n'a aucune importance. Ce qui comptait, c'est que les Australiens soient là le jour où on les attendait. Et donc, si vous voulez, l'histoire de Gallipoli, elle est écrite avant même que ces soldats débarquent. Et qu'importe ce qu'ils auraient fait, ce serait un succès. Pourquoi ? Parce que dans le monde du début du XXe siècle, les nations sont faites à la guerre. Et les traditions des armées, qu'elles soient allemandes, ottomanes, françaises, britanniques, sont enviées des Australiens. Dès leur premier engagement militaire pour l'Empire, en 1875 au Soudan, la colonie Nouvelle-Galles du Sud envoie des hommes se battre. Le problème, c'est qu'ils arrivent après la guerre et qu'il n'y a que quelques personnes qui meurent du typhus. Et se pose la question au Parlement de Sydney de savoir s'il faut construire un mémorial. Et un des parlementaires dit « Écoutez, le temps n'est pas encore venu pour notre nation d'avoir son panthéon. » Entre guillemets, il n'y a pas eu assez de sang qui a coulé pour ça. Et donc, la Première Guerre mondiale, cette occasion, c'est vraiment la masculinité australienne va être projetée devant le monde entier. Le monde entier s'en fiche. Hein. Mais pour les Australiens, voilà, c'est comme si tout le monde allait vous regarder et il est important de débarquer. Et donc, vous avez évidemment la presse britannique très élogieuse. Pourquoi ? Parce que c'est de la propagande de guerre. Quand vous avez une colonie qui vous envoie des hommes alors qu'elle n'est pas forcée à le faire, vous n'allez pas lui dire « bah écoutez, c'était pas terrible ». Non, non, vous allez dire « oh là là, ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont forts, ils gagnent ». C'est de la propagande de guerre. Le souci, c'est que l'Australie même d'aujourd'hui n'est pas sorti de cette propagande, n'arrive pas à lire ces textes en contextualisant le pourquoi de ces éloges, alors même que Gallipoli est une défaite incomplète pour les troupes alliées françaises et britanniques.
Alors, je continue le parallèle avec les tirailleurs sénégalais. On sait que les Français les ont utilisés, bon, comme de la chair à canon, mais aussi un petit peu comme une arme psychologique, parce que, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de fantasmes en Europe sur les Africains, de manière générale, sur les Noirs en particulier. Oh là là, si on se fait attraper, ils vont nous manger parce que c'est tous des cannibales, etc. Est-ce qu'il y avait ce genre de fantasme autour des Australiens ? Oh là là, c'est tous des repris de justice, enfin, c'est des sauvages complet et ils sont très dangereux ou pas plus que ça ?
Alors, pas plus que ça, mais vous faites bien de rappeler et de souligner le racisme de ces empires à l'époque, y compris l'Empire français, ce que Mangin appelait la force noire et qui prêtait des qualités fantasmées, imaginées et empreintes d'un racisme puant, qui prêtait voilà certaines caractéristiques à certaines troupes, suivant qu'elles soient d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. Pour les Australiens, non, ils se conçoivent comme britanniques. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les sources françaises, quand vous travaillez dans les archives militaires françaises à Vincennes, par exemple, les Français de l'époque font peu de différence. On appelle ça des Anglais. Alors que vous soyez blanc du Canada, blanc d'Australie, blanc de Nouvelle-Zélande, ou blanc du Pays de Galles ou d'Irlande, vous êtes un Anglais. On a le terme générique plutôt que de dire britannique ou australien. Donc ça rend très compliqué l'analyse de texte, en fait, parce qu'on ne sait pas souvent de qui ouais. Il parle.
Il y a un petit côté OSS 117 qui parle oui. des Chinois du Japon, quoi. Voilà,
voilà c'est à peu près. On force le trait, mais à peine, malheureusement. Et donc, non, les Australiens, on leur prête au fur et à mesure de la guerre des qualités martiales supérieures parce que c'est lié à la propagande de guerre. Vous comprenez bien qu'à partir de 1916, c'est la conscription au Royaume-Uni. hein, comme en France, dès le début de la guerre. En Australie, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart des Australiens, ah oui, alors ça, c'est un des grands mythes nationaux australiens. Ah oui, ils sont volontaires, les seuls volontaires de la Grande Guerre. Mais non, pas du tout. Les Irlandais étaient volontaires, vous avez des troupes indiennes volontaires, et ils prêtent une caractéristique, supérieure au volontariat. Mais non, le volontariat, quand vous êtes les soldats les plus payés de la guerre, ce qui est le cas des soldats australiens, qui sont 2,5 fois plus payés que les soldats britanniques, ça prend une autre allure. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand on parle du volontariat en Australie, il faut parler de ceux qui ne se sont pas battus. Le gouvernement australien lui-même estime en 1918 qu'il y a 2 fois plus d'hommes éligibles pour se battre et qui ne se sont pas inscrits pour se battre que d'hommes qui sont allés servir. Hein, donc, les fanfaronnades de, voilà, les troupes volontaires, très bien, volontaires, mais en même temps, vous avez fourni 2 fois moins de troupes que vous auriez pu le faire comparé à des pays comme la France, la Grande-Bretagne, la Serbie, l'Allemagne, où la question du volontariat ne se posait pas, puisque vous étiez conscrits. Et donc, pour recruter des hommes, vous n'allez pas leur dire, bah, écoutez, venez rejoindre l'armée, et puis vous allez finir éclaté en 1000 morceaux par un obus, vous ne serez jamais enterré, et vous traînerez là, comme ça, sur un champ de bataille, et puis vous allez mourir la tête dans la boue. Non. Vous allez dire, venez rejoindre, battez-vous pour l'Empire, soyez un homme, vous serez beau, vous aurez un uniforme, vous aurez des médailles, vous aurez de l'argent, les femmes vont vous aimer, et donc vous construisez toute une mythologie autour du soldat de l'Anzac parce que vous avez besoin qu'il vienne se porter volontaire pour se battre. Et la question du volontariat est telle en Australie qu'il y a 2 référendums en 16 et en 17 pour demander aux Australiens d'imposer la conscription et les Australiens refusent. Si bien qu'en octobre 1918, un mois avant l'armistice du 11 novembre 1918, les troupes australiennes sont sorties des champs de bataille parce qu'il n'y a pas assez d'hommes dans leurs 5 divisions. Et elles ne sont plus tout à fait opérationnelles, il faut qu'elles se reposent et qu'elles se reforment. Donc, vous voyez, il y a une réalité historique qui est assez distincte de la légende des Anzac, qui est, disons, encore aujourd'hui assez prévalente.
Alors, on s'est attardé pas mal sur la bataille de Gallipoli, et parce que, bah, comme vous l'avez expliqué, c'est un peu le mythe fondateur des Anzac. Vous disiez tout à l'heure que les Australiens, en partant vers l'Europe, s'attendaient à se retrouver sur le front ouest. On les envoie d'abord dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Mais ils vont finir quand même, au moins certains d'entre eux, à se battre aussi en France, dans les tranchées. Il y a même un certain nombre de cimetières et de mémoriaux consacrés aux anciens combattants australiens en Picardie, je pense notamment à Villers-Bretonneux.
Oui, tout à fait. Alors, à partir de 16, les Australiens sont envoyés sur le front ouest, qui inclut les combats donc dans le nord de la France et surtout, enfin, également en Belgique. Hein, et ils y perdent sur le front ouest, donc Belgique plus France, 45 000 hommes, dont 11 000 qu'on ne retrouvera jamais et qui sont commémorés au cimetière militaire, au mémorial de Villers-Bretonneux. Et ce qu'il est important de souligner, moi je commence toujours mes enseignements de la Grande Guerre en Australie en demandant à mes étudiants, voilà, quelle est la proportion des soldats australiens dans la Grande Guerre? Alors, certains vont dire 5%, 10%, 20%, ils ont une idée assez enflammée de leur contribution. 0,57%. Sur les 75 millions de personnes qui se battent pendant la Première Guerre mondiale, vous avez 416 000 Australiens, dont 330 000 qui se battent à l'étranger, vraiment physiquement. Donc, la contribution australienne, elle est importante pour l'Australie. Et c'est vrai que numériquement, elle l'était pour un pays de moins de 5 millions de personnes. La Grande Guerre a changé l'Australie. Elle est très importante pour l'Australie. Oh, ça, on ne peut pas le nier. En revanche, la contribution australienne au résultat de la Première Guerre mondiale, bon, vous comprenez bien que quand vous êtes 0,57% des troupes, voilà, on peut se poser la question.
Un dernier mot sur ces Anzac. On sait qu'ils ont également été déployés durant la Seconde Guerre mondiale, cette fois plus proche de chez eux, plutôt dans le cadre des guerres qui ont eu lieu dans le Pacifique.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils sont très déçus à l'époque parce qu'ils sont jaloux des Canadiens qui, eux encore, vont débarquer cette fois-ci en Normandie et se battre pour libérer l'Europe. Hein. Il y a cette espèce de fantasme d'aider l'Europe parce que, bon, voilà, l'Europe s'est raffinée, cultivée, etc. Et non, la réalité, c'est que très peu de troupes australiennes se battront sur le front ouest pendant la Seconde Guerre mondiale puisque au début, elles sont déployées vers Tobrouk, la Libye, donc tout ce bassin méditerranéen. Et surtout, après 1942, elles sont rappelées dans le Pacifique puisque la déferlante japonaise fait que la menace arrive vraiment très proche des côtes australiennes. D'ailleurs, Darwin est bombardée. Et en fait, les Australiens deviennent surtout une base arrière pour les Américains. Hein, entre 42 et 44-45, une personne sur 8 ou une personne sur 9 en Australie est américaine. Vous avez plus d'un million de GI qui débarquent. Donc les troupes australiennes deviennent des troupes de soutien, en fait, très limitées parce qu'elles ne sont pas nombreuses, des opérations américaines qui sont, elles, bien plus importantes dans le Pacifique.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre ville pour l'estime comme qu'un homme extraordinaire. Oh, ça souviendra de ce qui commet la crime.
Les Innocents sur SBS Audio avec ce titre Un homme extraordinaire. Chamboulement à Melbourne avec l'ouverture prochaine d'un consulat général de France pour le Victoria. Et pour l'occasion, Christophe Mallet a rencontré l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Imbert, et la consul générale honoraire de France à Melbourne, Myriam Boisbouvier-Wiley. Interview.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Et bien aujourd'hui dans le programme En Français sur Radio SBS, on a le plaisir d'avoir notre ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Imbert. Bonjour.
Bonjour, ravi d'être parmi vous.
Alors on s'était déjà rencontrés maintes et maintes fois, c'est la première fois je crois officiellement dans nos studios à SBS, c'est un honneur. Et on a aussi Myriam Boisbouvier-Wiley, bonjour.
Bonjour Christophe.
On va parler justement du consulat à Melbourne, parce qu'il y avait des annonces qui avaient été faites récemment lors d'une visite ministérielle. Ces annonces sont mises en effet en fait.
Absolument, et c'est une excellente nouvelle pour la communauté française en Australie. Notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait annoncé que la création d'un consulat général à Melbourne était à l'étude en décembre dernier. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons officiellement ouvrir un consulat général à Melbourne en septembre prochain, 170 ans après l'ouverture de la première agence consulaire à Melbourne.
C'est énorme, 170 ans, ça relate toute l'histoire que la France peut avoir, justement, l'histoire diplomatique également avec le pays comme l'Australie. Myriam, vous êtes avec nous, vous avez exercé dans le rôle honoraire de consul brillamment, d'ailleurs je tiens à le dire. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté à Melbourne.
Absolument, et ça témoigne de la chaleur des relations tant diplomatiques que politiques, que économiques, que culturelles, qu'éducationnelles qui existent entre la France et le Victoria. Et c'est je me souviens avoir été là quand le consulat avait été fermé en 2000 et beaucoup d'émoi. Et maintenant, il va y avoir le même émoi, mais dans l'autre sens.
Ah voilà.
De bonheur.
Tout peut se réinventer, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un consulat à Melbourne qui était présent. Pour différentes raisons, il avait été fermé. La différence entre un consulat honoraire et un consulat, entre guillemets, officiel, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? Pourquoi c'est important d'avoir une représentation officielle plutôt qu'honoraire ?
Alors là, vous allez mettre un point extrêmement sensible.
Je mets le doigt dans l'engrenage.
Mais vous avez absolument raison, parce qu'en fait, Myriam a fait un tel travail.
Extraordinaire, on est
extraordinaire,
d'accord.
Je veux dire, elle a mis tellement de passion, de talent, d'investissement, de dévotion à la communauté française pour la faire vivre sous tous ses aspects, la vie culturelle, économique, politique, qu'on en venait même à se demander, en fait, si elle n'était pas la consule presque à vie de notre communauté française, exerçant la plénitude de ses fonctions.
Et je vous interromps juste 30 secondes. Quand on parle à d'autres communautés, il y a des personnes qui ne... Quand on voit ce qu'un consul honoraire fait et surtout ne fait pas, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir Myriam ici, parce que c'était bien au-delà des fonctions.
Absolument. Et la chance qu'on a toujours, c'est que Myriam va continuer à accepter de continuer de mettre ses talents au service de la communauté française et des échanges franco-australiens, notamment en présidant la nouvelle Fondation pour les échanges culturels entre la France et l'Australie, qui fait partie de la feuille de route de deux gouvernements et qui est en train d'être bâtie pas à pas par Myriam et son équipe, et je leur remercie très vivement.
D'accord, donc Myriam, si on devait mettre une chanson, c'est « Ce n'est qu'un au revoir » au lieu de « Comment te dire adieu ».
Exactement. je cherche le titre de la chanson, mais là, c'est pas mal.
Si on venait justement aux différences entre un consulat honoraire, officiellement, et un consulat officiel français.
Le consulat officiel français est donc une représentation diplomatique exercée par un consul qui est un personnel diplomatique du ministère des Affaires étrangères qui exerce donc une fonction qui, comme l'ambassadeur, en fait, est nommé par le ministère des Affaires étrangères et va exercer pendant des périodes de 3 à 4 ans et tourner et donc assumer la plénitude des relations diplomatiques. Donc en fait, c'est donc alors que le consul honoraire repose sur le volontariat de la personne, sur le temps qu'elle accepte de dédier, sur les ressources qu'elle mobilise. Alors évidemment, quand quelqu'un le fait de manière extraordinaire, on me dirait, on avait presque le plan, mais je veux dire, ce qui est aussi important, c'est que politiquement, le signal adressé aussi au gouvernement australien, il est un réinvestissement, et c'est un réinvestissement qui s'inscrit dans une perspective plus large, voulue par le président de la République et le gouvernement, de réinvestir à nouveau dans notre réseau diplomatique, d'y recréer des postes qui ont été supprimés
auparavant,
pendant plusieurs dizaines d'années. Donc ça marque aussi un investissement et c'est pas un hasard si dans cette zone du Pacifique on recrée un consulat à Melbourne, on crée une ambassade au Samoa. Donc là il y a vraiment une volonté de la France de réaffirmer sa présence et son soutien à la communauté française, à nos entreprises et à la relation bilatérale et plus largement à la relation avec l'Indo-Pacifique. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle qui traduit une orientation politique très forte.
Alors c'est important ce que vous dites parce qu'il faut le voir au-delà des frontières australiennes, vous le dites, c'est l'implication de la France dans toute la région Indo-Pacifique. Et c'est, on le sait qu'à l'époque, c'était un des axes d'Emmanuel Macron quand il parlait de cet axe Indo-Pacifique qui venait jusqu'à Canberra. Ça a été un petit peu écorché aussi, on le sait également, on va pas revenir dessus. Ce qui est intéressant de voir de l'extérieur, c'est que c'est quand même un acte de maturité presque de la France de dire « Ok, il s'est passé ce qui s'est passé ». On tire un trait dessus et nous, on va faire ce qu'il faut pour que la relation soit pérenne et s'améliore, que ce soit juste un écorchement et non pas simplement quelque chose de beaucoup plus grave dans la relation.
Absolument, nous avons une relation qui a plus de 200 ans avec l'Australie, qui plonge ses racines dans notre passé très lointain.
Et avec beaucoup de « et si ». Et si l'Australie aurait pu être différente.
Ouais, ça, on aime bien reconstruire l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, en fait, c'est la volonté, en fait, du président de la République de se projeter, en fait, dans un futur commun avec l'Australie et plus largement avec l'ensemble du partenariat Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est 2 millions de citoyens français. Ça fait beaucoup de monde. On a une présence affirmée, pérenne, que l'on souhaite développer. L'Australie est un partenaire majeur. Mmh. Et donc, il faut voir, en fait, dans cette création d'un consulat général à Melbourne, un acte de confiance dans la relation avec l'Australie et avec une belle feuille de route bilatérale qui doit se décliner sous des échanges culturels dont on a parlé, mais aussi scientifiques, éducatifs, économiques et bien sûr en matière de défense et de sécurité. Donc ça, on est vraiment dans la mise en place et la déclinaison de cette belle feuille de route endossé par nos deux gouvernements.
Et ce qui est intéressant aussi de se rappeler, parce qu'il y a aussi, bon, il y a des Français qui écoutent ce programme, mais il y a aussi des francophones qui écoutent ce programme, mais il y a aussi des anglophones qui apprennent le français. La France et l'Australie sont voisins. Il y a la Nouvelle-Calédonie, et on sait à quel point la France est attachée à la Nouvelle-Calédonie, et les Calédoniens l'ont réaffirmé leur attachement à la France récemment. Donc ça veut dire qu'on est voisins. Donc c'est en tant que voisins, il faut aussi avoir des bonnes relations. C'est des relations de bon voisinage en fait, tout simplement.
Et alors, on est triplement voisins, si je peux
en
dire.
Plus,
c'est
oui.
Que si on regarde vers l'ouest, vous tombez quelque part vers l'ouest, un peu au sud, sur le plateau des Kerguelen, et là vous rencontrez une zone commune avec la France. Vous montez un peu vers le nord, toujours en regardant vers l'ouest, vous tombez sur la Réunion puis Mayotte. Mm-hmm. Vous regardez vers le sud, nous avons nos territoires, mais ce ne sont pas des frontières officielles, mais des territoires en Antarctique qui ont une frontière commune, sans doute une des plus longues frontières terrestres communes entre la Terre Adélie et le territoire administré par l'Australie en Antarctique. Et évidemment, si vous regardez plus près à l'est, vous avez la Nouvelle-Calédonie et plus loin nos territoires de Wallis et Futuna, mais aussi la Polynésie française. Tout ça crée en fait une chaîne, j'allais dire, de compagnonnage avec l'Australie qui est extrêmement importante dans notre action commune pour assurer notamment une action déterminée sur les conséquences du changement climatique ou assurer la sécurité maritime dans toute cette zone.
D'accord, oui, tout à fait. Merci d'avoir éclairé en tout cas sur la question. Myriam, le bilan. Non, on va pas faire un bilan complet. Mais vous êtes bienvenue pour venir parler
une autre fois. Je suis en train d'apprécier le moment. C'est vraiment un moment où on réfléchit, on se dit, ben, c'est arrivé, c'était pas un plan. Et il y a eu beaucoup de bonheur pendant ces 13 années et demie.
Parce qu'au départ, le mandat, il n'était pas forcément pour 13 ans, mais vous
non,
êtes...
il a été renouvelé voilà. plusieurs fois.
Mmh. Mais c'est aujourd'hui, là, depuis qu'on annonce ça et vous attendez à ce qu'on revienne vers vous, en fait, sur le bilan en lui-même, ce que vous avez pu faire pendant ces 13 années, vous avez quand même fait pas mal de choses. Il y a des choses qui vous marquent, des moments qui vous marquent, des visites qui vous marquent peut-être plus que d'autres.
Ah, mais je pense pas qu'aujourd'hui je sois en mesure de pouvoir tout, avoir tout internalisé, pouvoir tout le ressortir d'une manière, sereine. Donc, j'attends que les émotions passe, mais ce que je peux dire, c'est que c'était un immense honneur et que j'ai vraiment beaucoup apprécié ces 13 années et demie, pour être précise.
Avec des moments difficiles, hein, la pandémie, il y a des choses qui ont été compliquées.
Les attentats hein. En 2015 et 2016, ça, ce sont des moments très, très, très marquants parce qu'il y a eu une véritable... levée d'amour et d'amitié de la part des Australiens, des Victoriens vers la France et tous ces messages que j'ai récoltés, gardés, que je transmettrai, c'était vraiment très émouvant. La gouverneure de l'époque qui était venue signer le mot de condoléance, ça c'est vraiment des moments qui me resteront à jamais gravés. Il y a tous les moments de commémoration. Aujourd'hui, on a la cérémonie de Villers-Bretonneux, qui est vraiment très importante dans les relations franco-victoriennes.
Oui. On n'oubliera jamais l'Australie et les avenues du Victoria.
Exactement, l'école Victoria, la rue Melbourne. Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Et toutes ces commémorations... j'y ai assisté à beaucoup, j'ai fait beaucoup de discours et en même temps, à chaque fois, c'est très, très émouvant. On ne peut pas s'empêcher de réfléchir aux valeurs de la démocratie et c'est réel et on s'y bat. Et maintenant, on a un monde qui fait un peu peur, en fait.
Ouais. Mais on va pas prendre peur. On va pas en parler. On va pas prendre peur. Juste pour conclure, est-ce qu'on a un calendrier? On sait quand le nouvel consul sera en place, arrivera, prise des fonctions, etc., etc.
Le calendrier est pour septembre prochain.
D'accord.
On a encore 3 mois pour tous continuer à remercier Myriam de son investissement. Et je voudrais dire surtout ce qui est frappant avec l'investissement qu'elle a eu, c'est le sens du collectif. On voit bien d'ailleurs, elle a tellement bien travaillé et de manière tellement ouverte que on voit bien que ça va très bien se passer en fait, parce que elle a posé des bases qui sont extrêmement fortes dans ces, je pense au Bastille Day, je pense à toutes ces commémorations, mais je veux dire dans tous les domaines. Je veux dire, elle a tenté à chaque fois de créer du collectif pour que ça perdure au-delà de son action. Et c'est extrêmement remarquable.
La relation avec la Chambre de commerce aussi. Hein. Incroyable.
Vraiment, sur tous les plans. Donc, je veux dire, on aura l'occasion tous de fêter ça et de lui rappeler notre amitié et notre profonde reconnaissance. Mais je veux vraiment souligner qu'il est assez rare de rencontrer des personnes qui ont un tel investissement désintéressé, volontaire et qui travaillent surtout à ce que leur investissement perdure au-delà de leur mandat.
Et sans rougir.
Ah bah là, on peut pas me voir. Je suis à la radio, ça c'est pas mal quand même.
Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Des roses de cristal, Chris et Sam Mollis. Ah que la vie est belle, ah que la vie. Que la vie est belle.
Magnifique chanson de Zao de Sagazan, « Ah que la vie est belle » qui fait partie de notre sélection musicale sur SBS Audio. Il est 13h passé de 56 minutes, on passe au rappel des titres. Les célébrations et commémorations de l'Anzac Day à travers l'Australie et à l'étranger, notamment en France, 109 ans après la bataille de Gallipoli. Nouvelles arrestations dans une grande opération de police antiterroriste après l'attaque au couteau dans une église de Sydney. 5 personnes aujourd'hui, 7 hier ont été inculpées. Au total, plus de 400 policiers sont mobilisés. L'Ukraine s'apprête à recevoir de nouvelles aides américaines après le feu vert du Congrès. Joe Biden vient de promulguer la loi octroyant une enveloppe de près de 61 milliards de dollars dollars et l'envoi immédiat de matériel de guerre pour aider Kiev dans sa guerre contre la Russie. Et enfin, le Hamas diffuse une vidéo d'un otage israélo-américain de 24 ans kidnappé le 7 octobre dernier. Israël, de son côté, assure avoir de nouveau ciblé le Liban et avancé dans ses préparatifs pour une offensive terrestre à Rafah, malgré la contestation internationale. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.eu/french. Et pour les dernières actualités, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur le site de SBS News. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est ce week-end, samedi et dimanche, 13h sur SBS 1. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.